la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
C'est la chronique « Je lire » et « Je lire » ces temps-ci deux livres en parallèle pour les besoins notamment d'un très beau festival baptisé Nature Nomade, porté par une partie de l'équipe qui travaille à la Géothèque de Nantes, très belle librairie du voyage où l'on trouve des cartes, des livres, tout un tas de choses qui donnent envie de voyager, de se déplacer, au moins dans sa tête si on ne peut autrement. Et cette Géothèque propose depuis quelques années Nature Nomade, un festival donc porté par une association qui gère ce festival, invite des écrivains, des auteurs, des essayistes, des documentaristes autour de cette question du voyage, de la nature, du nature writing comme on dit, et un certain nombre donc de rencontres ont lieu pendant un week-end. Il se trouve que pour cette nouvelle édition, ça se passera le week-end du 6, 7, 8 novembre, dès le vendredi soir normalement, si tout va bien, une inauguration au Muséum d'Histoire Naturelle, là où avait lieu chaque année le Festival Nature Nomade. Les projections de films seront diffusées pendant tout le week-end, samedi et dimanche, donc 7 et 8 novembre, dans l'auditorium du Muséum d'Histoire Naturelle, mais le café littéraire qui habituellement prenait place au premier étage du muséum ne peut pas se faire à cet endroit-là pour les raisons maintenant habituelles de crise sanitaire, et ce café littéraire se tiendra dans la Géothèque, au premier étage de cette belle librairie qui est juste à côté, finalement, du Muséum d'Histoire Naturelle, rue Racine à Nantes, et nous aurons le plaisir avec JetFM d'y installer un studio pour enregistrer, documenter et pourquoi pas aussi modérer les rencontres, les 6 rencontres qui vont avoir lieu pendant le week-end de Nature Nomade, samedi 7 et dimanche 8 novembre donc, à la Géothèque. Et c'est pour ce besoin que je lis notamment 2 livres, puisque je vais avoir le plaisir de m'entretenir avec leurs auteurs, 2 livres qui pourraient être assez éloignés dans leurs sujets ou préoccupations, mais qui finalement ont beaucoup de points communs et je leur trouve des passerelles intéressantes et qui seront très certainement discutées lors des 2 rencontres qui auront lieu, l'une le samedi 7 novembre avec Guillaume Blanc, l'autre le dimanche 8 novembre avec Sébastien Baudouin. Le premier vient de sortir un livre aux éditions Flammarion baptisé « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». Un livre sur lequel je vais revenir qui, comme son titre l'indique, décrypte les mécanismes d'un néocolonialisme à l'œuvre sous couvert d'écologie, de préservation d'espaces dits naturels. Le second livre, c'est une belle somme aux éditions Le Mot et le Reste de Sébastien Baudouin, baptisé « Aux origines du Nature Writing », où il est question là d'histoire de l'écriture du nature writing à travers la figure de quelques grands écrivains du genre qui ont peut-être donné ces lettres de noblesse au genre, ou en tout cas largement aidé à allumer des étincelles qui ont fait long feu pour un certain nombre d'écrivains. Je commence par le livre de Guillaume Blanc, préfacé par François-Xavier Fauvel. C'est donc « L'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain ». Un livre qui fait quelques 350 pages, qui coûte 21,90 €. Et cet historien de l'environnement, qui est Guillaume Blanc, qui travaille à l'université de Rennes 2, qui est spécialiste de l'Afrique contemporaine, s'est penché sur une histoire particulière, celle de la manière dont les grands parcs nationaux en Afrique et principalement dans son domaine de travail et d'études qui est l'Éthiopie, comment les grands parcs nationaux ont été gérés par les puissances principalement occidentales, par l'UNESCO notamment, par WWF et par un certain nombre de personnes qui étaient à l'œuvre sur le continent africain durant toute la période coloniale et qui, après les décolonisations plus ou moins violentes qui ont eu lieu, eh bien sont restés actifs et vraiment à l'œuvre pour garder une forme de pouvoir. Parfois ce sera pour, aux côtés des présidents ou dictateurs locaux, être un peu dans l'ombre et tirer quelques ficelles. Parfois ça va être au sein d'organismes à but soi-disant humanitaire ou non lucratif, les ONG qui préservent l'environnement, où on va retrouver un certain nombre d'experts qui sont souvent d'anciens fonctionnaires du colonialisme. En tout cas c'est le cas dans toute la première partie du XXe siècle, et c'est cette étude-là, de manière assez chronologique, que mène Guillaume Blanc dans son livre. Alors c'est assez saisissant. Et à travers les quelques chapitres qui sont déroulés dans ce livre, il y en a 8, eh bien on voit sur une forme de chronologie comment depuis 1850 et jusqu'à nos jours, tout a été mis en œuvre pour contrôler un certain nombre d'éléments qui sont liés à la préservation de la nature au sein de l'Afrique. Alors par exemple, de manière très schématique, pour vous résumer l'idée, et c'est ce qu'on détaillera probablement dans cette rencontre nature nomade, eh bien, de manière simple, l'UNESCO, à travers un certain nombre de critères, a décidé que les parcs nationaux, s'ils ont par exemple comme terrain les États-Unis, vont devoir ressembler à des natures un peu sauvages dans lesquelles on va trouver des animaux et des hommes qui vivent un peu en ermite dans des cabanes au fond des bois. Si nous sommes en France, les parcs nationaux vont plutôt s'attacher à la paysannerie, à montrer les petits métiers, à montrer le pastoralisme et l'agriculture. Et en Afrique, on est dans un mythe complètement inventé d'un Éden africain qui devrait n'exister que dans une nature sauvage, avec des animaux sauvages et surtout pas aucune trace d'être humain. Ce qui fait que, par exemple, dans l'Éthiopie, qu'a bien étudié Guillaume Blanc, 3 parcs nationaux ont été recensés, dans lesquels systématiquement toutes les populations qui y habitaient ont été délogés, ont été accompagnés à d'autres endroits, ont été interdits d'utilisation du terrain pour l'agriculture, pour le pastoralisme, etc. On est donc dans une vision complètement néocoloniale de l'écologie, de l'environnement, qui laisse penser que l'Afrique devrait être une sorte de continent vierge, vierge de tout être humain, et qu'on ne peut pas se permettre de cultiver telle ou telle terre sous couvert de préserver cet Éden complètement fantasmé par les ex-colonialistes qui se sont emparés complètement de cette Afrique. C'est vraiment une pensée très puissante et là je la résume un peu grossièrement, mais le livre va très loin dans des détails très précis de connivence évidemment économique, industrielle, politique, et c'est assez passionnant et on aura donc le plaisir d'en discuter avec Guillaume Blanc le samedi 7 novembre au sein de la Géothèque dans le Café littéraire pour Nature Nomade. Et l'autre livre que je lis ces temps-ci, c'est Aux origines du Nature Writing aux éditions Le Mot et le Reste de Sébastien Baudouin. Alors là, une belle grosse somme aussi de quelques 350 pages qui détaille un certain nombre de moments littéraires, des comparaisons finalement entre des écritures. Alors les écritures de William Bartram, tout d'abord, dans ses voyages, nous sommes au début du 19e siècle, William Bartram va décrire un peu la nature sauvage, la wilderness, comme on l'appelle en bon français, des bientôt États-Unis, mais à l'époque de ce nouveau continent, tel que l'appelaient là aussi les colonialistes. Et il va commencer à décrire, être fasciné et montrer une sorte de rêverie possible autour de ces grands espaces, de ces grandes forêts. Et à sa suite, d'autres écrivains vont commencer à rajouter de l'écrit sur ses écrits. Alors évidemment, on pense immédiatement à Henry David Thoreau, qui est peut-être devenu, avec son Walden, notamment le pape un peu de cette écriture du nature writing, de cette expérience aussi de la vie dans une nature dite sauvage, ou en tout cas dans une nature non humanisée ou non industrialisée, et qui en a fait quelques-uns des grands livres à la fois de nature writing et puis aussi de plus globalement des livres politiques comme la désobéissance civile. Avec lui, avant lui surtout, il y a deux écrivains français qui, à quelques 50 années d'intervalle, vont venir sur le territoire américain, y chercher quelque chose, soit pour fuir la Révolution française et les violences faites aux nobles, et là on a l'exemple de Chateaubriand qui va essayer de retrouver une sorte de virginité du côté des États-Unis et puis tomber en amour et en admiration avec sa verve habituelle sur les paysages qu'il va croiser, un peu les populations aussi, mais là aussi, comme chez Guillaume Blanc, il est question quand même d'une nature parfois fantasmée, avec une déshumanisation, ou en tout cas un peu une absence de présence des populations locales qui ont commencé déjà à être largement colonisées. Et puis Tocqueville aussi, à sa suite, qui va venir sur les pas de Chateaubriand, et lui avec une vision plus pragmatique, mais qui malgré tout va se laisser quand même corrompre par la rêverie des paysages qui se déploient devant lui et dont ils sentent tous les deux, Chateaubriand comme Tocqueville et à leur suite Henry David Thoreau, ils sentent que c'est quelque chose qui est en train de se perdre, que cette sauvagerie, cette wilderness, cette nature sauvage américaine est déjà en train de disparaître au profit d'une civilisation qui grignote, qui avance, qui s'installe, qui installe des chemins de fer, qui se rue vers l'or, etc. Il y a tout ça dans le livre de Sébastien Baudouin qui est très très bien monté avec des thématiques qui sont développées. On ouvre avec un chapitre baptisé « Up to the Wild » en français dans le texte presque, puisque ça permet d'entrer vraiment dans cette nature sauvage. Et à travers ça, en reprenant quelques extraits des différents ouvrages des écrivains, mais de voir un peu dans les comparaisons là où ils se sont retrouvés en admiration sur certains paysages, à certains endroits, dans leur rêverie, dans la manière dont ils ont pensé un peu cette nature. Comment est-ce que tout ça résonne profondément dans leur être et dans leurs écritures aussi. C'est vraiment un très bel essai sur les origines du nature writing qui est étonnamment revenu assez en odeur de sainteté ces derniers temps. Beaucoup de jeunes écrivains ou de relativement jeunes écrivains se sont penchés sur le nature writing ou ont fait l'expérience d'une écriture dans la nature ou avec la nature pour dire autre chose de quelque chose d'intime et puis de dire autre chose peut-être de l'humanité, de l'humain. Pour vous donner quand même quelques éléments en plus sur ce très beau livre de Sébastien Baudouin, il y a différentes parties qui sont découpées comme telles. Parcourir tout d'abord avec vraiment les itinéraires de chacun des voyageurs, s'ensauvager ensuite, où là on est dans une question de la sauvagerie, justement qu'est-ce qui fait sauvagerie ou pas, rêver à travers notamment les exemples de la forêt, puis du désert, des fleuves, des lacs, et enfin pour terminer il y a des perspectives, c'est vraiment construit comme une somme, un essai, une thèse autour du nature writing, mais rédigé avec brio par Sébastien Baudouin et avec tous les extraits de textes des différents écrivains, ça donne quelque chose d'une saveur littéraire assez puissante. C'est publié aux très bonnes éditions Le Mot et le Reste. La rencontre avec Sébastien Baudouin aura lieu le dimanche 8 novembre dans le cadre de Nature Nomade, donc à la Géothèque dans le Salon Littéraire. Et vous aurez aussi des projections au Muséum d'Histoire Naturelle dans l'auditorium. Tous les renseignements sont à prendre du côté de la Géothèque, qui est donc rue Racine, à Nantes. Alors, pour conclure cette chronique autour de ces deux ouvrages, je vous rappelle Guillaume Blanc, l'invention du colonialisme vert chez Flammarion, et puis Sébastien Baudouin aux origines du nature writing chez Le Mot et le Reste. Eh bien, retournons du côté de Henry David Thoreau avec un extrait du disque Abra, notamment dirigé par Julien Ponviane, dont tous les textes sont issus des écrits de Henry David Thoreau.
It is a bright, clear, warm November day. I feel blessed. I love my life. I want wood, all nature. The wounds are now much more open. The leaves the richness of the outline of the wood against the sky is in proportion to the number of distinct interstices through which the light struggles to us. It is a scene for variety, for beauty and grandeur. watch the forms of the clouds over this part of the earth a thousand years ago. Who watches them today?